Radio Campus 88.3, toujours en direct depuis la salle Fernand Pélissier en ce samedi 29 juin à l'occasion de la journée de la source organisée par des habitantes du quartier. Et nous, donc, j'invite Mustapha, s'il m'entend, je ne sais pas, en tout cas, à venir nous rejoindre autour de cette table avec de nouvelles invités, de nouveaux invités. Donc, ben, je les laisse. Alors, Aude, que l'on a déjà entendu dans la première partie de cette émission, bonjour, est-ce que tu peux rappeler nos auditeurs, auditrices, ce que tu fais actuellement dans la vie ?
Alors, en ce moment, j'ai fait une reprise d'études. Donc, je suis en fin de Master 2 Langue et Société, parcours médiation interculturelle à l'Université d'Orléans.
Madame Dia.
Bonjour. Je m'appelle Madame Dia Rukiyatou. Donc, j'habite à La Source depuis 2008. Je suis arrivée à La Source. Donc, actuellement, je suis bénévole dans les associations.
Une bonne partie hein, des travaux de Malik là, ont été réalisés avec vous, madame, non ?
Oui.
Hein, Malik, c'est vrai ?
C'est vrai, oui. Oui. Bon.
Et Mustapha ?
Que Mustapha Itaouzani, moi, je suis dirigeant d'une pompe funèbre ici à La Source qui s'appelle Sérénité. Donc, c'est pour ça que je suis un homme très joyeux.
Oui, alors avant cette pause musicale, je voulais qu'on revienne justement sur cette question de la mémoire, de la réparation de la mémoire. Alors j'ai évoqué les noms de Frantz Fanon et Édouard Glissant, voilà. Et toi, tu m'as dit que c'était un sujet qui t'était cher, Aude. Alors Malik est toujours avec nous, bien évidemment.
Je suis là.
Bah, Édouard Glissant, alors pour le coup, je l'ai étudié justement dans le cadre de mon cursus, donc oui, ça me parle beaucoup. Après, la question de la mémoire, oui, par mon héritage familial. Là, j'ai fait des études, vous voyez, c'est toujours plus facile de se décentrer sur un milieu anglophone et hispanophone. Forcément, on a abordé toutes les questions de colonisation, de post-colonisation, de littérature coloniale, post-coloniale, enfin tout ça, ça a été, voilà, c'est des enjeux très présents dans les études que j'ai faites. Moi, ma maman vient d'Algérie, elle est pied noir, française et espagnole, donc d'Andalousie. Elle est revenue, donc voilà, rapatriée. C'est un peu touchant pour moi d'en parler parce que justement, il y a quelque chose de cet endroit où moi, j'ai grandi à La Source, où justement, comme je vous dis, on était tous mélangés. Je ne me posais pas la question. Et c'est plus tard, finalement, qu'est venue la question de me poser comme une enfant de pied noir. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce terme ? Donc de quelqu'un qui est né en Algérie, qui est donc est associé pour, en tout cas, à cette vague de colonisation, alors qu'elle est née sur place et sur des générations. Donc, et en même temps, pour ma maman, j'ai toujours entendu dire, elle parle de l'Algérie tout le temps. Elle a toute son histoire qui est là-bas, c'est très important aussi pour elle. Elle n'a jamais eu non plus ce truc de... Enfin, pour elle, les liens étaient évidents, en fait, avec tout le monde. Elle n'avait pas ce sentiment de barrière, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est quelque chose qui, moi, m'est revenu plusieurs fois, de se poser la question de cet héritage. Qu'est-ce que j'en fais, en fait, moi, qu'est-ce que je fais avec ça?
Mais justement, est-ce qu'il peut y avoir une mémoire propre à La Source, d'après toi? Est-ce qu'on peut parler de mémoire sourcienne? C'est tellement vaste, il y a tellement de populations... de plusieurs du monde. Tout à l'heure, c'était combien on disait ? Combien ? 82 ?
82.
Autour de 82. Mais est-ce qu'il peut y avoir une mémoire de La Source ? Est-ce qu'on peut parler de mémoire de La Source ? Est-ce que la Source a créé une sorte de mémoire à elle ou pas ?
Vraiment, je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'il y a des fragments comme partout, en fait. Il y a des fragments... De vie, des mémoires qui sont liées à ça. En même temps, moi, je reviens toujours à l'enfance, hein, parce que c'est un truc qui est vraiment cher, puis à mon frère aussi. Enfin, je pense que dès qu'il y a de l'enfance, il y a une mémoire commune, en fait.
Elle a une mémoire. Elle a une histoire. Mais c'est comme la population, c'est quelque chose qui n'est pas visibilisé. C'est ça le problème, en fait. Chose qui est en parallèle à la notion de musée, c'est-à-dire la notion de musée, c'est la notion de un peu comme le cimetière, quelque part, de la notion de l'hommage, du témoignage. Voilà. Ça, c'est important. Et bien sûr qu'elle a une mémoire, bien évidemment. Les gens ont eu des fonctionnements, des façons de s'entraider, etc. Des gens. Mais c'est vrai qu'elle est éparpillée, elle est complètement un peu comme cette tour qui a éclaté quelque part. Moi, j'y suis allé sur le chantier, j'ai commencé à ramasser des morceaux de cette tour pour refaire un peu une espèce de puzzle. Et j'ai l'impression, en fait, quelque part, cette mort de la source, elle serait éclatée. Du fait qu'elle ne soit pas visibilisée, par exemple. Et quand je suis arrivé à la source, un de mes premiers réflexes a été de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je pourrais trouver les livres, les photos de tout ça, là, l'histoire et mémoire de la source? Est-ce que ça a été collecté quelque part? Est-ce que quelqu'un s'est préoccupé de ça? Alors Aziz, en l'occurrence, rencontré récemment, Zniba, a fait ce travail quand même, c'est conséquent. Il y a cette personne-là qui a fait ça. Mais moi, je pense qu'il y a plein d'albums photos qui sont dans les familles, qui n'ont pas été forcément beaucoup... montrer. Le problème, c'est qu'aussi des familles, par exemple, Fatira disait que nous, à l'époque, les familles, on n'avait pas d'argent, donc on n'avait pas d'appareil photo. Et il y avait un photographe qui était à 2002 qui faisait des portraits. Donc elle a un portrait d'elle. Elle se rappelle le moment où sa mère l'avait habillée pour aller faire cette photo. Elle a quelques photos, mais pas énormément d'images. Donc il y a une mémoire, elle n'est pas forcément visuelle. Hein, la mémoire, elle est aussi dans les corps, dans les manières de se mouvoir, de se reconnaître. Fatira, qui a collé des affiches pour la journée de la source, disait, mais j'ai revu mon coiffeur. Et c'est marrant parce qu'elle disait, en fait, et on s'est dit, on est une famille. Mais oui, en fait, c'est ça, ce truc, c'est cette mémoire familiale. Qu'est-ce qui fait famille, que la source, on soit une famille, par exemple? Ça, c'est intéressant.
Alors, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est-à-dire, c'est la matérialisation de cette mémoire avec l'objet photographique, la photo qui est dans l'album de famille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le rapport à la photo, il se fait plutôt avec l'objet téléphonique. On accumule beaucoup. Et on ne regarde pas forcément, on ne prend pas le temps de regarder et puis de partager. C'est-à-dire qu'une photo, ça se passe de main en main, on s'assied dans un canapé, on la regarde, on la commente, comme ce qui se fait aujourd'hui d'ailleurs, de manière physique. On peut voir justement des traces de cette mémoire. C'est vrai qu'on est dans un monde où la diffusion de ces images-là, elle se fait beaucoup plus de manière numérique et solitaire, et pas forcément comme ce que permet cette exposition de manière collective. Et je pense que c'est ce qui permet de faire ressurgir la mémoire. Il y a des photos, moi, qui m'ont... j'ai vu la doudoune des années 80, les manteaux comme ça, là. Et ça témoigne d'une époque où même si je ne suis pas sur la photo, je reconnais mon enfance là-dedans. Moi, j'aimerais bien avoir le témoignage de celle à qui on doit aussi une partie de ton travail, de Madame Dia. Est-ce que vous pourriez nous parler, on va commencer par le début, de votre arrivée à La Source, dans le quartier de La Source?
Oui, en fait, moi, je suis arrivée en 2008. Donc, je suis arrivée, avant, j'habitais à Saint-Jean-de-la-Ruelle en 2006. Et 2008, je suis arrivée à La Source, en fait. Avant d'arriver à La Source, je savais déjà que j'allais arriver à La Source. Donc, il y a une voix qui me disait toujours « La Source ». Et je n'avais pas compris, je ne savais même pas qu'il existait, La Source. Parce que moi, je suis arrivée en France. Après, tout de suite, je suis arrivée à Orléans en 2006, en fait. Et là, quand je suis arrivée à La Source, la première chose qui m'a marquée, c'est la tour 17. Donc, j'étais venue à la poste. Je ne savais même pas que j'allais habiter à la tour 17. Donc, j'étais venue à la poste pour chercher un courrier et tout ça. Donc, je regardais la tour 17. J'ai dit, waouh, elle est grande, cette tour-là. Après, bon, je suis repartie à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Après avoir eu mes papiers, on me propose d'habiter à la source. Et je suis revenue à la source en 2008. Et j'ai vu la tour. On m'a dit que tu vas habiter dans cette tour-là au 7e étage. Et avec un seul balcon, c'était là que j'ai habité mon premier appartement. Et après, je suis restée quand même depuis à la source. Je n'ai pas pu quitter la source jusqu'à présent.
En quelle année vous avez quitté la T17?
La T17, j'ai quitté en 2014, décembre 2014. Oui.
Et le jour où elle tombe, cette tour, vous êtes où?
J'étais là. J'ai fait un commentaire, j'ai été invitée par France 3 et j'ai parlé aussi de ce que je pense de cette tour et ce que j'ai vécu aussi dans cette tour et beaucoup de choses aussi que j'ai appris avec cette tour. Voilà.
Ouais, si je me rappelle bien, vous n'étiez pas complètement dans le pathos comme beaucoup qui ont vécu ce truc, mais vraiment dans leur chair en disant « j'ai habité là, ça tombe ».
Oui.
Vous disiez oui. Que ce n'était pas très grave finalement.
J'ai les deux. Ouais, à un moment donné, je disais qu'il fallait que ça parte parce que moi je
Mais
voyais
pourquoi
parce que je voyais que ça bloquait. En fait, je me disais, est-ce que ce n'est pas cette tour-là qui bloque notre lien entre les autres? Et il fallait que cette tour-là parte. Et que je rêvais même de ça, que pourquoi on n'arrive pas à se fréquenter, à s'associer, ce lien-là, qu'est-ce qui bloque? Et moi, pour moi, c'est cette tour-là qui bloquait, en fait. Quand elle est partie, j'ai dit, oh, j'ai mal, mais j'ai dit aussi, ouf. Voilà, c'est ça. Ouais.
Pour connaître un petit peu, je prends un petit peu la parole, juste deux secondes, pour connaître un petit peu Rogui depuis 3 ans maintenant, que, par exemple, quand je dis à Rogui, à tout, tu sais, on a trouvé des plans de la source et on a trouvé un musée. Et là où le musée devait être construit, c'est là où tu habites.
Ouais.
Elle va te dire, je sais. Je vais, comment tu peux savoir? Et c'est ça, en fait, que j'aime bien dans cette culture-là, sénégalo-mauritanienne, etc., que je connais un petit peu, c'est qu'en fait, et de part aussi le lien avec la migration, c'est qu'on est sur des... Et c'est là où les concepts, en fait, culturels sont importants à entendre, c'est que parfois, la migration précède, en fait, les systèmes de pensée occidentaux. Et ça, pour les comprendre, il faut s'ouvrir. On parlait tout à l'heure de diversité, etc. Mmh. Ça va au-delà de ça. Pour moi, c'est vraiment de l'ouverture. Parce que même là, entre des populations, parce que des musulmans je veux dire, maghrébins n'ont pas forcément compris comment ça va fonctionner chez les musulmans, musulmans mauritaniens. Il y a d'autres, encore, ouvertures intraculturelles, intracartières, qui doivent se faire. Parce qu'on sait qu'aussi, dans les communautés, ça ne communique pas. Et ces manières de penser, hein, je parle bien de manières de penser, mais ça rejoint aussi des penseurs comme Glissant. Mais pourquoi Mme Diane ne serait pas aussi intellectuelle que Edouard Glissant? C'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'il faut que les artistes, et que le rôle de l'art, et pas que de l'image, puissent en fait passer du temps avec ces gens-là pour comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, on ne peut pas simplement demander aux gens de venir donner un coup de main à une association, ou de venir, tiens, dire, tu vas être la petite des grands frères, vous allez surveiller, ou les médiateurs et tout. On va vous utiliser pour aller travailler auprès des gens un peu éloignés dans les quartiers, parce que beaucoup de gens dans les quartiers ont été aussi utilisés pour ça, mais sans prendre aussi après en considération vos manières de penser. C'est là où moi je trouve que l'aspect culturel, en fait, des cultures, la culture pour la culture, devrait être vraiment entendue, et c'est pas toujours facile à comprendre, mais on parle des fois de, si elle dit qu'il y a un blocage, c'est parce qu'en fait, au-delà, elle voudrait que sa communauté fonctionne plus avec d'autres communautés, etc. Et ça, il faut travailler sur cette écoute, cette manière de comprendre les choses.
Moi, j'aimerais bien, et Mustapha va m'y aider, j'aimerais bien revenir un petit peu sur quelque chose qui a été évoqué, par exemple, Aude qui parlait de sa mère avec des origines algériennes, voilà, et de cette faille, une sorte de faille quelque part. Mais je pense aussi à Omar tout à l'heure qui nous parlait, à tous ces enfants qui, assez jeunes en fait, ont connu une certaine insouciance, une diversité justement, qu'ils n'ont pas retrouvé en grandissant dans le monde adulte où il fallait justement être dans la norme. Et c'est fini la diversité, même ça peut faire peur. Et ces adultes justement qui essayent, qui étaient insouciants, bah parce que papa, maman, ils avaient trouvé c'était super le quartier de la source, il y avait l'eau courante, il y avait un certain confort, le rêve d'une cité idéale, etc. Et puis en creusant un petit peu derrière le vernis, ils s'aperçoivent quand même en grandissant que bah, leurs parents ont quitté leur terre. Et c'est-à-dire qu'ils ont laissé leur famille aussi dans un autre pays, sur un autre continent. Et ça, ce sont des histoires familiales de migration que beaucoup d'humains portent, en fait, aussi, cette séparation dans l'espace, mais aussi dans le sentiment. Alors, je pense à vous, par exemple, Madame Dia, puisque vous dites que vous êtes arrivée en France en 2006.
Avant 2006,
voilà,
oui.
Voilà.
Ouais. En 2005.
Et donc, c'est cette question de la réparation, enfin, de la mémoire, justement, de toute cette mémoire qu'on a laissée ailleurs et qu'on va construire ici, parce que bah, c'est ce qu'on souhaite pour nos enfants. Voilà. Et puis, alors, comment, justement, transmettre cette mémoire du quartier? Est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous, comment... Ben non, vous êtes né à la source. Vous êtes un pur sourcien, pur jus.
Oui, la question de la mémoire, hein, ce qui me dérange, en fait, dans cette question, quand on se pose la question, est-ce que la source a une mémoire? Moi, je pensais que c'est une logique. En fait, la source a une mémoire. C'est un point d'affirmation. Elle existe depuis plus de 60 ans. Donc, de fait, les gens qui ont vécu ici depuis plus de 60 ans sont déjà... Les personnes humaines sont la mémoire de la source. Malheureusement, beaucoup nous ont quittés déjà, mais le fait de garder ces photos, de garder des vidéos, de garder tout élément en fait, qui peut parler de ces gens-là, c'est important. Les immeubles de la source, l'architecture de la source et sa mémoire, et ça, c'est important. on a eu, vous avez parlé d'université tout à l'heure, on a eu beaucoup de sociologues ou de thésards qui ont fait des thèses sur la source. Parce qu'à un moment donné, dans mes travaux associatifs, j'avais fouillé un petit peu quelques thèses et quelques analyses en fait, de la population de la source, d'un point de vue statistique ou d'un point de vue des origines, et pour comprendre un petit peu ce qu'est la source. Et pourquoi la source est à 10 km du centre-ville. En fait, tout ça, il faut pouvoir l'expliquer, le transmettre, pour pouvoir le comprendre aujourd'hui, pour qu'on puisse dire, bah, tiens, ce n'est pas un pansement qu'on a collé à 10 km de la ville d'Orléans n'importe comment. Voilà, que de dire aux gens qu'en fait, voilà, on aurait pu être dans la commune de Saint-Cyr-en-Val, parce que c'est Saint-Cyr-en-Val qui a vendu ce terrain à Orléans, et de garder cette mémoire-là un petit peu de ces étapes, permet aussi de garder la mémoire des personnes qui sont venues. Pourquoi ils sont venus d'ailleurs ? C'est ce qui est important. C'est pas aujourd'hui, 40 ans, 50 ans après, on dit, tiens, on gère une problématique sociale, mais en fait, pourquoi ils sont là ? Et pourquoi, depuis 40 ans, en fait, il y a des questions qui perdurent, alors que peut-être elles auraient dû être traitées déjà et qu'on ne devrait pas être dans ces problématiques aujourd'hui.
Mais c'est peut-être ça qui manque, non ?
Et c'est ce qui manque, parce qu'aujourd'hui, après, on a une génération d'enfants, ce que vous disiez tout à l'heure, mais parce que je pense que les sociologues le diront mieux que moi, mais c'est dangereux pour un être humain de ne pas avoir de racines.
Bien sûr.
Donc ne pas avoir de mémoire. Ça déstabilise un être humain.
Mais et alors ça peut même le rendre... vous avez parlé tout à l'heure du GPV. Les élus vous ont appelé pour parler du GPV, le grand projet de ville. La source change énormément, a changé énormément. Est-ce que justement cette mémoire, elle ne change pas parce que on va faire des immeubles, on va casser d'autres trucs, l'architecture change. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de changer cette mémoire que moi je pense existe, hein, vraiment ?
Tout à fait, il faut la conserver parce que
qu'elle change. Mais comment on fait ?
Comment on fait ? Il n'y a pas 36 solutions. Vous savez, il y a aujourd'hui soit l'écriture qui permet de garder la mémoire, soit les musées qui permettent de garder la mémoire aujourd'hui avec les pièces qui arrivent. Parce que les êtres humains, malheureusement, on est mortels et dans 50 ans, il n'y aura plus personne d'entre nous qui sera là. Donc il faut pouvoir laisser des traces écrites et il faut pouvoir laisser des lieux. Et un lieu, franchement, je pense qu'il est urgent. La salle des fêtes Fernand Pélissard, ça a été un tournant dans l'histoire de la source. Il n'y avait pas de salle des fêtes. Maintenant, il y a une salle des fêtes. Et donc, c'est devenu naturel et on se demande comment on pourrait faire. Même une seule, aujourd'hui, ne suffit plus, selon le calendrier. Hein, ouais, tout à fait. Donc, il y a besoin de ces lieux de fête. Il y a besoin vraiment, urgemment, d'avoir un lieu de mémoire. Et ça permettra même d'apaiser le quartier et d'apaiser la ville. Parce qu'en fait, il faut penser à l'échelle de la ville. Si ça va bien à la source, ça va bien à Orléans. Si ça va mal à la source, ça va mal à Orléans. Donc, pour apaiser ces jeunes et de leur donner un enracinement apaisés et de leur faire comprendre leur mémoire et leurs histoires, et qu'en fait ils ont été leurs parents ont été des pierres qui ont permis de construire cet édifice commun qui contribue à tout le monde aujourd'hui. Voilà, ces entreprises, quand vous parlez avec des anciens maçons qui sont à la retraite aujourd'hui ou ceux qui ont fait les travaux, ils vous diront tout, ils ont tous, chaque rue a une petite anecdote. Donc quand on a fait cette rue-là, quand on a fait cet immeuble-là, quand on a fait ce quartier-là, voilà, et ces anecdotes-là aujourd'hui, elles disent en fait, on a construit ensemble un avenir commun. Et c'était ça l'objectif. Et alors comment on en arrive de... On construit pendant 50 ans un avenir commun, à maintenant chacun son avenir. Et si votre avenir il pouvait être ailleurs, ce serait mieux. À un moment donné, voilà, ça pose des questions centrales.
Alors, vous avez remarqué quand même que monsieur travaille dans les pompes funèbres. Alors, il enterre des corps, mais par contre, il nous donne de bonnes pistes pour conserver la mémoire. Parce que c'est vrai qu'on peut enterrer les corps, mais on n'enterre pas les souvenirs comme ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous travaillez dans les pompes funèbres, vous avez une belle philosophie de la vie, puisqu'on était en train de parler que voilà, tout le monde pouvait être philosophe, même Madame Dia, enfin, on était tous philosophes. C'est ça aussi qu'on retrouve quand même dans les quartiers. Quand même. Il y a pas mal de philosophie. Il y a une belle philosophie, moi, je trouve. Je sais pas...
Si on pouvait parfois plus entendre la parole des gens, vraiment ce qu'on dit, des gens du terre-terre, du quartier, je pense à Mohamed, etc., des gens qui viennent au café parler, mais qui ne veulent pas être mis en avant parce qu'il y a une pudeur, parce que aussi poétiquement, c'est des gens qui ont compris des choses, qui ont co-travaillé avec des fois avec les politiques, et les gens ont compris aujourd'hui, ont compris le manège politique, etc. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il y a cette perte aussi de confiance, etc. Et je pense qu'on a loupé le coche un petit peu, pas de la mémoire, mais oui, de l'intérêt intellectuel que pouvait avoir aussi. La source, c'est le monde, quoi. C'est pas rien. C'est beaucoup de nationalités, c'est beaucoup de parcours, c'est beaucoup de gens qui... bien sûr que Moustapha peut très bien parler de la vie, même s'il travaille sur la fin de vie, au contraire. Moi, son travail m'évoque la question du portrait, parce que quand on s'est vu avec Hamid Djerbouy, avec la maman de Khadija qui est passée, on s'est dit, mais les anciens, il faut les prendre en photo, c'est maintenant, parce que déjà beaucoup sont partis, ils ne sont plus là. Et si on avait pu leur rendre hommage, en fait, le portrait, c'est vraiment le dernier soin, quelque part, j'ai envie de dire aussi, qui pourrait accompagner ce projet. On pourrait faire un livre, hein, je veux dire, avec Aziz, avec toutes ces archives, mais il faudrait que ce livre il prenne corps. Si c'est qu'un empilage d'archives, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait des paroles. Il faut que cette histoire de la source, on voit bien qu'elle est éparpillée. Moi, je la sens bien par bribes, par il se passait ci, il se passait ça. Et en fait, en rentrant dans chaque famille, en fait, on peut recomposer en fait, ce voisinage et on aurait un livre un peu à part qui ne soit pas un livre justement d'histoire politique, mais une histoire d'histoire quoi, de gens, du vécu quoi, voilà, de l'intérieur. Et moi, les Mohamed me citent parfois du Nietzsche, des choses comme ça, il faut voir ce qu'ils disent. Quoi. Ils s'intéressent au soufisme, à comment ça fonctionne. Même par exemple, Mohamed, quand on a parlé des rats à un moment donné, parce que apparemment, l'insalubrité de la source est liée à la tour est tombée, donc les rats seraient partis dans partout dans la source et tout. Il a tout de suite été lire comment fonctionne le cerveau du rat pour comprendre comment ça fonctionne. Tu vois, il s'est intéressé à plein de choses. Ça part dans plein d'univers. Mais il y a ce débord, en fait, je trouve, de, quand on parle aux gens de la source, d'émotions et de ressentis qui n'ont pas été dits. Comme tu disais, vivre sans mémoire. C'est presque indécent quelque part, c'est une grande violence, donc d'où la question de la réparation. Quand je reviens à la source, je cherche un soin, je cherche quelque part à me réparer, un peu comme un dernier soin qui pourrait me dire allez, c'est bon, t'es arrivé au bout, t'as compris. Mais sans témoignage, c'est dur aussi, je trouve, sans la parole des gens. Une image ne suffit pas. Il faut aussi qu'on entende la parole des gens.
Moi, il y a une question qui me taraude. Peut-être que vous voulez parler. Daniel, c'est que qu'on n'a pas évoqué, c'est comment les sourciennes et les sourciens se sentent orléanais, orléanaises. Alors la question, c'est, je vais vous la poser, Madame Dia. Est-ce que la source, c'est Orléans? Elle paraît bête comme ça, cette question, mais je vous le dis, pour avoir fait des reportages avec des jeunes d'Orléans qui ne se sentent pas orléanais parce qu'ils vont au centre-ville, ils vont s'installer devant un bar et... Ah, on les regarde mal, quoi. Donc voilà. Et est-ce que les sourciens se sentent orléanais?
En tout cas, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que historiquement, la source, du fait de l'éloignement, en tout cas, moi, depuis que je suis arrivé à la source tout petit, hein, en 69, comme je disais tout à l'heure, on ne s'est jamais senti vraiment orléanais. Alors, déjà quand on était enfant, on n'allait pas à Orléans. Hein, le bus, il y en avait un tous les 36 du mois. On allait dehors, on allait jouer, on allait récupérer des murs, on allait jouer avec les copains, on allait au BRGM derrière chercher des quartz, des trucs comme ça. On se racontait nos histoires de gamins, mais on se sentait pas orléanais. Et cette construction de l'enfance où on se sentait pas orléanais a continué après. Et même politiquement, les sourciens se sont toujours considérés comme une excroissance d'Orléans, mais pas considérés par les politiques d'Orléans. C'est ce que disait Mohamed Roulam tout à l'heure, hein, que de tout temps, Orléans était plutôt une ville bourgeoise à droite. Et la source était toujours en décalage par rapport à cette situation. Il suffit de regarder les résultats, bon, qui sont un peu moins vrais aujourd'hui, mais qui étaient marquants. Moi, je tenais des bureaux de vote. Hein, on avait des résultats où c'était 80% pour la gauche au deuxième tour, quoi. Donc... historiquement, la source s'est considérée... Il y a eu pendant un moment même une revendication, mais il n'y avait pas eu le Front de libération de la source qui s'est créé avec des plasticages. Hein. Mais de dire, il nous faudrait un maire à la source. Il y a plus de 20 000 habitants, il y a le centre de chèque, il y a le CHRO à l'époque, qui est devenu CHU. Il nous faudrait... Et en termes d'habitants, oui, on était pendant un long moment la deuxième ville du Loiret.
On disait derrière, que si la source était une ville, elle aurait été la deuxième ville du Loiret. Ouais.
C'est ça.
Ce serait plus le cas maintenant parce que Fleury est passé devant, mais on serait dans. Il y a plus d'habitants à Orléans-la-Source qu'à Montargis. Il y a plus d'habitants à Orléans-la-Source qu'à Gien, qui sont des sous-préfectures.
C'est vrai.
Et donc il y a ce sentiment qu'on on n'est pas comme les autres. Et juste un petit mot sur le GPV. C'est sûr que le GPV, il y en avait besoin hein, pour avoir connu les allées Camille Flammarion il y a 20 ans avant le GPV. Il y avait besoin de cette rénovation urbaine. Mmh. Le problème, c'est que la rénovation urbaine, elle s'est concentrée, comme son nom l'indique, sur l'urbain, sur le bâti, et qu'elle ne s'est pas occupée des humains qui vivaient dedans. Et donc forcément, quand on s'occupe que du bâti, on traite le bâti, et les problèmes humains, ils restent, tous les problèmes, ils restent et ils s'amplifient. Par exemple, la résidentialisation, qui était d'un point de vue, entre guillemets, sécuritaire, et pour la qualité de vie des habitants, qui était plutôt une bonne chose, sur la convivialité, les relations entre les personnes, à recréer des barrières, et là, des vraies barrières physiques. C'est-à-dire que les gens qui sont à 200 mètres sont plus dans la même résidence. Il y a des barrières, il y a des portails, et les gens ne se parlent plus, ne se connaissent plus.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Madame Dia, alors,
oui,
vous sentez orléanaise?
Non.
Ah, et pourquoi? Vous sentez... deuxième question. Oui. Vous sentez sourcienne?
Sourcienne.
D'accord.
Oui, parce que même ma fille, elle a 10 ans aujourd'hui. Elle est née à la source en 2014. Mais souvent, elle me pose la question. Elle me dit, maman, on était partis à Orléans aujourd'hui avec la maîtresse. Et je lui ai dit, mais ici, c'est Orléans aussi. Elle dit, non, ici, c'est la source. Donc, j'essaie toujours de l'expliquer. Bon, je ne peux pas tout donner les détails parce que, voilà, c'est un peu compliqué quand même. Mais bon, moi, ce que je me suis dit que Orléans, la source, Fleury, tout ça, aujourd'hui, le message que je voudrais passer, c'est que je pense que si on essaye de travailler un peu le moral, de travailler un peu le voisinage et de travailler un peu aussi c'est-à-dire de s'approcher un peu de nos ancêtres, si je peux dire ça comme ça, et d'essayer aussi de donner la chance aux autres de transmettre ce qu'ils ont de positif et aussi... je pense que ça pourra avancer les choses un peu, voilà. Et de casser les barrières, c'est pas les murs qui nous font des barrières, non. C'est nos comportements des fois et nos projets et notre façon de penser, notre façon de voir les choses. C'est ça qu'il faut améliorer pour qu'on puisse vraiment se retrouver dans une salle.
Ouais. Ouais, je rebondir là-dessus sur oui, je me sens Orléans. À l'âge adulte, j'ai compris même qu'il fallait absolument se sentir orléanais parce que ce serait donner en fait le bâton pour se faire battre, de se sentir autre chose qu'orléanais. Parce que si on est sourcien, il faut qu'on se donne le droit de penser Orléans, Orléans économique, Orléans administratif, Orléans politique, et qu'on n'ait pas une espèce de sous-citoyen d'Orléans où en fait on a le droit de penser que le quartier de la source parce qu'on serait de la source. Et justement, même si on se demande si... pendant les différentes politiques qui sont passées ces 40 dernières années, est-ce que vraiment on intègre que la source, c'est un quartier d'Orléans et au même titre que les autres quartiers, donc ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs? Ou est-ce qu'en fait, je penserais bien d'interroger pour savoir si, je pose la question, si certains politiciens ne se pensent pas que la source n'est pas un quartier comme les autres d'Orléans et n'a pas les mêmes droits et mêmes devoirs que d'autres citoyens d'Orléans. Ça, c'est important. La distance, oui, quand on est enfant, en fait, quand on est jeune, nous fait penser qu'on vit dans un autre domaine qu'Orléans. Donc, je pense qu'il y a un travail à prendre en compte là-dessus pour la jeunesse orléanaise qui est au collège, au lycée et à la source, pour un peu déconstruire cette idée que les jeunes se mettent dans la tête, quoi.
Oui, moi, c'est vrai que... Je suis totalement d'accord avec vous. Je me suis jamais considérée comme orléanaise parce que du fait d'avoir grandi ici, il n'y avait pas le tram à l'époque, on n'allait jamais en ville. Enfin, vraiment, c'était très très rare qu'on aille en ville. Donc en fait, c'est vrai que notre terrain de jeu, c'était là, on était ici. Donc j'ai pas le même rapport d'attachement au centre-ville ou à Orléans qu'ici. Par contre, là où je vous rejoins complètement, c'est vrai que j'en ai parlé justement avec une enseignante chercheuse de mon master qui travaille beaucoup sur l'idée de marge. Et en fait, c'est vrai qu'on en parlait, on disait que c'est important en fait de visibiliser les marges, donc de les reconnaître en tant que telles pour pouvoir les visibiliser. Et à la fois, Ce qu'on se posait comme question aussi, c'était à force de poser le terme de marge, est-ce qu'on marginalise pas non plus? Donc en fait, il y a une sorte de double mouvement qui est essentiel à reconnaître. Et en même temps, si on considère la source toujours voilà, comme un quartier prioritaire, par exemple, il faut des politiques de ville effectivement, qui permettent de faire des choses ici, mais en même temps, c'est vrai que le terme de quartier prioritaire, tout d'un coup, on se dit, bah, alors pourquoi ça crée une identité qui en sert. Voilà. En fait, c'est un peu ça se mord la queue. Quoi.
Du coup, ça revient sur la question du politique et de l'engagement. Pourquoi finalement la source n'est pas une ville en tant que telle, puisque finalement, il ne manque pas grand-chose, il lui manque juste, il y a un hôpital. En fait, on peut naître à la source, on peut grandir à la source.
Il y en a un cimetière.
On peut aller à l'université, et on peut mourir à la source. Je veux dire, voilà, on peut vivre à la source, on peut travailler à la source. Il manque presque juste je dirais un tribunal pour qu'on ait la fonction de la ville en soi. Et en même temps, il y a quelque chose moi, qui m'a toujours choqué, c'est cette espèce de... Un peu comme la question coloniale au Maroc, en fait, la question du protectorat, qui a toujours été une espèce de fiction vis-à-vis par rapport à l'Algérie, où en fait, on est là sans être là, quelque part, je parle au niveau du politique. Et ça crée quelque part une forme de schizophrénie. Alors, je ne sais pas à quel degré la schizophrénie elle fait partie de la vie des banlieues. Elle est quand même sous-achante parfois dans des comportements qu'on peut voir, mais qui sont liés aussi parfois aussi à la consommation de produits qui ont fait que dans la jeunesse, certains sont tombés dans des choses qui font que ça traîne, etc. Mais ça rejaillit toujours en fait sur mon pays. En fait, je suis la source où je suis allé, mais quelque part, il y a autre chose derrière, une trame qui renvoie toujours à nos origines. Je suis algérien. J'ai rencontré quelqu'un le jour où la tour est tombée, Farid, qui était là à 9h avec le chapelet de son père, à regarder la tour, et on a marché ensemble. Il m'a sorti un slam qui parlait de l'Algérie qui s'est terminé sur la source. Et c'était d'une force, une puissance incroyable. Et il me dit, on est quel jour là? Je dis, on est...
Tu l'as enregistré ça ou...
Non, mais j'aimerais bien le revoir. Oh. Et je dis, on est le 29. Et il me dit, tu penses qu'il reste combien les gens de la source sur leur compte? Ils n'ont plus rien. Ils ont rien à foutre de la tour qui va tomber, en fait. C'est l'argent, etc. Il y avait une espèce de dimension comme ça où on est de la source. La question orléanaise, je trouve qu'elle est un peu plus éloignée en fait de ce que je ressens, mais par contre, il y a toujours quelque chose qui revient à cette idée de la composition avec la source. Comme tu disais, c'est la source, c'est les racines, c'est racinaire quelque part, mais ça renvoie aussi quelque chose toujours aux origines. L'Algérie revient, le Maroc, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre dans la construction d'une mémoire. On ne peut pas faire sans, quelque part. Et pour la fiction, c'est vrai que quand on part d'Orléans, c'est le panneau Orléans. Quand on arrive à la source, c'est le panneau Orléans. C'est pas écrit Orléans, la source. Donc c'est encore plus problématique, je trouve, en termes de fiction, quelque part. Et je pense que les gens comme Rokia, etc. et tout, se sentent pas forcément orléanaises parce qu'en fait, elles voudraient encore plus se sentir encore plus sourcienne, quelque part, plus investie. Il y a des gens dans le quartier qui donnent du temps, elle l'a dit, qu'elle était bénévole, mais qui ne sont pas reconnus pour ce bénévolat-là. Dans ce temps de travail-là. Beaucoup de gens ont donné autant politique, autant associatif, et n'ont pas été élevés au rang, je pense, où ils pouvaient prendre la dimension d'un rang dans la ville pour dire je me sens orléanais.
Oui.
Et ça, on leur a retiré ça. Et donc, en retirant ça, on retire en fait de la confiance. Je pense que la défiance qui est là aujourd'hui, quelque part, on se joue en fait un peu un mauvais sketch quelque part en s'écartant. Bien sûr qu'on est orléanais à la source, mais quand on dit t'es d'où, moi je dis je suis de la source quelque part, mais je le dis instinctivement en fait, comme si j'étais né ici et mes racines étaient là.
C'est vrai. Bon.
Donc voilà ce que je voulais un petit peu souligner.
Ouais.
Oui, parce que le débat m'interpelle beaucoup. Moi, je partage énormément l'avis de Mustapha sur la manière de faire, c'est-à-dire. Et ce n'est pas aux habitants du quartier de s'isoler. Je pense qu'ils sont assez isolés comme ça par ceux qui nous dirigent eux-mêmes. C'est-à-dire, moi, pour avoir participé à tout ça, quoi. Depuis avant le GPV, depuis les premières conventions contrat de ville à Orléans. C'est-à-dire, tout ce qu'ils peuvent faire de la source, c'est-à-dire quelque chose de vivant, quelque chose qui vit en soi pour être autonome et machin, c'est-à-dire il n'est pas du tout vécu. C'est-à-dire, vous regardez sur le côté économique, rien. C'est-à-dire, tout est dans les alentours, mais pas du tout dans le centre-ville. Vous voyez sur le côté culturel, rien. Vous voyez sur le côté... C'est-à-dire, même santé, aujourd'hui, on a quand même un espèce de désert médical énorme, en dehors d'avoir le plus gros hôpital de France chez nous, ici. Donc, je pense que ceux qui nous poussent pour pouvoir simplement dire que nous sommes sorciers, c'est ceux qui aujourd'hui, dès qu'ils sont dans le pouvoir, y compris ceux qui sont dans les mairies, que ce soit l'adjoint au commerce ou l'adjoint à la culture, de machin, ils ne font rien pour essayer de développer, c'est-à-dire la source. Nous sommes pour eux juste une manne d'argent, c'est-à-dire pour pouvoir aller consommer directement sur Orléans, sur Orléans ou sur les alentours d'Orléans. Donc, c'est pas à nous, c'est à eux d'être responsables de ce qu'ils font par rapport aux habitants du quartier. Ils les isolent, c'est-à-dire on nous isole économiquement et on nous isole politiquement. Et ça, si tu veux, c'est nous. Sinon, on ne s'engage pas. Donc, c'est pour ça que moi, je reviens toujours aux politiques. Si demain, si on ne s'engage pas sérieusement, si on n'est pas un peu dans les trucs de pouvoir, il y aura un problème. Sincèrement, un seul mot sur le GPV et sur la politique de la ville. Le GPV, il était nécessaire sur le quartier. La politique de la ville, c'est absolument nécessaire. Mais tu as vu comment ils nous traitent là ? Ils font quelque chose qui laisse des traces chez beaucoup d'habitants, même si le climat extérieur change. Mais les gens, c'est-à-dire, ont doublé leur loyer. C'est-à-dire, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a plein de choses. Et tout ce qu'ils sortent, c'est qu'on met tellement d'argent sur le quartier de la Source, ils ne disent pas sur le quartier prioritaire, ils disent tellement d'argent sur le quartier de la Source qu'ils continuent à nous faire chier, qu'ils continuent à être pas bons, et puis ils nous insultent, etc. Donc je trouve que même quand on fait quelque chose de bien, c'est-à-dire on essaie de le minimiser ou de l'utiliser contre les habitants eux-mêmes. Donc je crois que nous, on doit réagir face à toutes ces choses-là, c'est-à-dire sans pour autant... C'est-à-dire dire que nous sommes sorciers et nous revendiquons l'autonomie ou l'indépendance. Aujourd'hui, n'est pas. Je ne pense pas que c'est dans cette.
Voilà. Je voulais rebondir sur l'engagement citoyen et ce que tu as précisé tout à l'heure. En fait, à la Source, on est d'accord. Ces 30 dernières années, dès les années 80, peut-être même avant, on a eu une richesse associative. Mais cette richesse associative, elle n'est pas venue par hasard. En fait, les acteurs que nous sommes ou qui ont été là. En fait, à un moment donné, quand ils ont vu un manque, je prends quelque chose de stupide, sur le sport, sur le foot, allez, on monte une asso de foot et on fait faire du foot aux jeunes. Tiens, il y a une problématique sur l'animation dans les quartiers, allez, on monte une animation. Il y a un problème sur le théâtre, on y va. Il y a un problème sur les soutiens scolaires, on y va. Il y a un problème sur les logements, on monte la CNL. À chaque problématique, on a monté une association. Mais en fait, à la fois, c'est positif, mais à la fois, ça questionne quelque chose qu'on n'était pas en mesure de questionner. Est-ce que ça, ce n'est pas normalement du rôle de la politique de combler ce manque et pas aux citoyens de venir avec son association, avec son bénévolat, avec ses moyens, même si c'est bien, il faut encourager. Mais la double peine, ça a été laquelle ? C'est qu'à un moment donné, ces jeunes qui ont la cinquantaine maintenant, qui ont des cheveux blancs grisonnants comme moi, en fait, c'est qu'il y a ce fameux plafond de verre. Oh, restez à la Source, les enfants. Ne venez pas nous embêter sur les questions de mandat politique. Même si j'ai jamais prétendu, j'ai jamais été dans aucune, mais je vois à chaque fois cette question, c'est qu'en fait, sur les mandats politiques, il y a tout de suite cette sélection et ce plafond de verre qui est fait. Bon, on prend toujours un sourcien ou deux pour la couleur et pour la photo Benetton, ça c'est toujours important d'un point de vue de l'image politique, mais en fait, dans le concret, aujourd'hui, le maire adjoint de la Source, si on dit que c'est la deuxième ville, il devrait avoir du poids dans Orléans. Mais dans Orléans, il n'a pas de poids. Hein, quelle que soit la personne qu'on a vue passer, il ne s'agit pas de personne, de critiquer quelqu'un, mais les différentes personnes qu'on a vues adjoints, maires à la Source, je suis désolé, je ne les ai pas vues, parce que moi-même, pour les avoir interpellés tous à chaque fois sur des problématiques, excusez-nous, on ne peut pas, il faut voir plus haut. Voilà.
Alors, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, puisque ça rejoint ce qui avait été dit il y a à peu près une heure de cela, lorsque je disais que les sourciens faisaient de la politique, exerçaient la politique dans le plus noble art du terme, c'est-à-dire dans la rue, et c'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a un manque, c'est pas grave, on s'associe, voilà, on se fédère autour d'un projet pour remédier à ce problème, et c'est vrai que quelque part, on n'a pas vraiment besoin des politiques. Alors les politiques, eux, de leur côté, ils aimeraient bien que vous votiez pour eux, et puis qu'une fois tous les 5 ans, vous fassiez cet acte-là et que vous en teniez là. C'est vrai que vous mettez peut-être les politiques face à ce paradoxe de leur place parce que vous êtes efficace. Il y a des problèmes, vous les résolvez, vous montez une association, vous avez des projets. Et c'est ça la politique, en fait. Et c'est ça l'engagement. C'est peut-être ça, je ne vais pas déborder là-dessus. Là où je vais faire le lien avec la suite de l'émission qui touche bientôt à sa fin, c'est à cet espace contraint et imposé. que vous n'aviez jamais choisi. Alors, vous étiez bien heureux de vivre dans ces immeubles qui sont maintenant détruits, mais ils avaient été construits pour vous selon des visions architecturales, qui vous avaient échappé. Ce n'était pas vous qui aviez construit ces maisons. Et vous les étiez appropriés, justement. J'imagine qu'il y avait un salon qui était décoré, etc. Vous étiez approprié ces espaces. Et ces espaces qui se détruisent comme autant, j'allais dire, de passé, de lieux de mémoire, de lieux de culte. On en parlait tout à l'heure, même Fatira qui disait qu'elle avait été retapée au 49 de sa rue pour essayer de retrouver justement son ancien logement. Et vous le disiez vous-même aussi, ces traces, alors on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, que les jeunes pouvaient laisser sur des murs. Alors, ce n'était pas des graffitis, c'était de l'art de rue. C'était une manière aussi d'écrire l'histoire pour le futur.
La plus grande salle à manger, c'était celle-ci.
Alors là, voilà, salon, Mustapha désigne
l'entrée d'immeuble.
Voilà, en fait, une entrée d'immeuble.
Les porches étaient les agoras de nos quartiers.
Comme
en
un
fait.
Temple, on refaisait, voit et on voit d'ailleurs.
Le monde dans, là, on le voit bien, mais ça touche. On a passé du temps assis sur les rebords à repenser toutes nos problématiques, rigolotes ou pas. Et c'était un endroit où on pouvait se rencontrer en bas de l'immeuble. Tous les gens du quartier. Ouais, et à chaque fois, dans chaque quartier, il y avait un immeuble bien identifié. Et c'était vraiment un salon de rencontre. Quoi. Mmh.
Cette photo, on l'intitule dans l'exposition à Caramide, Salon collectif. Donc c'est vraiment ce que tu évoquais. Et les jeunes filles qui sont en photo, qui ont aujourd'hui 40 ans, évoquaient le jour du vernissage qu'en fait, dans l'immeuble, en fait, bon, c'était beaucoup berbérophone aussi, toutes les portes étaient ouvertes. Parce qu'en fait, elles ont dit on avait transformé l'immeuble en maison. Ça aussi, c'est des manières de penser en fait, que les architectes ne peuvent, ou devraient entendre en se disant, peut-être qu'il y a des manières de construire pour les gens ou avec les gens qui font que... Moi, quand je suis revenu à la source, tu parlais de graffiti ou de traces, ce qui m'a particulièrement choqué, c'est la question de la couleur. J'ai trouvé le quartier propre, mais assez monotone, assez gris, assez neutre quelque part, comme s'il y avait une espèce de paix sociale qui était là. On sent bien qu'il y a le point de deal, qui est la problématique, on les flics qui font leur truc, les gens qui vont au marché... La couleur, c'est quand il y a le marché, par exemple, mais c'est beaucoup construit par le vide, quelque part. Et mon corps d'enfant, qui était le petit Malik qui allait de Pierre et Lumière à voir son film sur la dalle au ciné-club de Gérard Philippe, c'était plus le même corps de celui qui a 50 ans qui revient aujourd'hui, les cheveux grisonnants ou dégarnis, si tu veux. Et moi, c'est physiquement que j'ai senti un problème. J'ai dit, mais c'est vide. Il manque quelque chose. De la même manière que, en fait, les femmes m'ont dit, il nous manque un lieu. C'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvé en fait à trouver une trame quelque part collective de cette question du manque ou du collectif et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà. Après, il y a bien sûr des dérives politiques qui sont évidentes à la question.
Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Malik. Donc, ce besoin de lieu, certes, ça, on est tous d'accord. Ces lieux d'échange comme nous, on a vécu. Mais ma question, quand même, je crois que je te l'ai posée le premier jour où je t'ai vue. Est-ce que tu crois que c'est forcément la politique qui a changé les gens ? Est-ce que tu ne crois pas que ce soit un travail de génération, en fait, vraiment ? Est-ce que ce n'est pas à nous, comme disait Mustapha, moi, je me sens orléanaise. Et excusez-moi du terme, j'emmerde les autres en fait. Moi, je suis orléanaise et j'ai pas envie. Non, mais c'est vrai. J'ai pas à me poser la question. Est-ce que t'es orléanaise ? Ben, bien sûr, à 2000%, je ne doute pas. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit la source, ben, c'est Orléans. Moi, je parle. Enfin, la source, c'est Orléans pour moi. C'est évident. Donc, est-ce que c'est pas aussi l'image ? Pas nous. Nous, on a eu cette image-là, mais est-ce que c'est pas les générations d'aujourd'hui et nos enfants qui n'ont pas du tout la même vision et la même image de ce qu'ils doivent être. Et moi, je pense que c'est peut-être un point important de nos discussions parce que j'entends, moi, je ne suis pas du tout politique, même s'il faut toujours en faire. Hein, on est tous d'accord. On l'en fait même au niveau professionnel, tu fais de la politique, tu es obligé. Mais moi, je me dis, je suis quelqu'un... On ne me dicte pas ce que je dois faire. Et si j'ai envie de faire quelque chose, eh ben je le fais. C'est-à-dire à mon niveau, avec ma voisine, avec ma sœur, avec ma mère, et j'essaie de monter un truc. Et j'ai l'impression que les gens n'ont plus envie de faire ça. Ou n'ont plus le courage, ou n'ont plus les moyens, ou n'ont plus l'envie. peut-être l'envie, je ne sais pas.
L'envie, en fait, et l'envie aussi, je pense que c'est parce que tout simplement, on s'est laissé berner avec toujours parler de la politique, de la politique. Et puis aussi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants, moi, quand je demande à ma fille de sortir après d'aller voir ses copines, elle a du mal à le faire. Et elle me dit, maman, je ne connais personne dans le quartier. Je vais aller où? Voilà, je vais aller où?
Et parce que
oui. Ça, c'est, voilà, ouais. c'est quelque chose qui n'est pas normal.
Parce qu'ils ont appris à se méfier de l'autre.
De l'autre.
Alors, je ne sais pas. Ouais. C'est pour ça que je vous questionnais sur la question de l'espace, par exemple, de ces bacs à sable qui ont disparu, de ces lois anti-bivouac, etc. Oui. C'est vrai qu'il y a les jeunes, en fait, aujourd'hui, c'est assez bizarre. Il n'y a plus de jeunes dans la rue. Quoi. Et parce que c'est quelque chose qui est mal vu aussi par les politiques, avec ces voitures de police qui tournent, les contrôles d'identité, etc.
Voilà. C'est ça.
Moi, je pense qu'on, c'est une réponse. Hein. Je pense qu'on ne soupçonne pas assez l'impact que peut avoir l'architecture sur les corps et la modification en fait urbaine qui fait qu'on voit bien que maintenant c'est tout grillagé, etc. Et en plus, en post-Covid, on peut imaginer qu'avec le Covid, ça c'est compliqué. Même si, moi, j'ai appris que pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'initiatives de jeunes qui sont venus, notamment distribuer des repas aux femmes isolées à la source, etc. Donc ça, c'était très spontané. Et ça. C'est dommage, ça devrait continuer. Ça continue à l'Argonne, par exemple. Il y a Coupe Froid qui fait des choses, etc. Et on sent qu'à l'Argonne, il y a beaucoup plus d'initiatives spontanées qu'à la source. C'était un des objets de la Réunion. Et là, pour le coup, c'est très générationnel. Mais il y a aussi des papas qui se prennent en main à la source et qui font des choses tous les soirs, qui se réunissent sans argent et sans étiquette politique ni associative. Hein. Et là, c'est du spontané. Et c'est un peu ce qui s'est fait aujourd'hui, quelque part. Mais je pense qu'on ne soupçonne pas assez la façon dont, pour l'avoir vécu quand je suis revenu, inconsciemment, la violence en fait, du modification de l'architecture du quartier, de ceux qui sont restés là, et finalement, ah tiens, il y a un grillage, je passe plus de la même manière,
oui. Et tout. Et la ça, résidentialisation.
C'est complètement indicieux. Quand j'ai vu la passerelle coupée, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression d'être à la frontière marocaine, dans l'enclave. Non, mais je me suis dit, en fait, on a pris l'esthétique de la frontière, on l'a appliqué sur le quartier. Et ça, ça m'a choqué. Après, effectivement, je pense que si on demande aujourd'hui aux mamans du quartier et tout, elles vont dire, mais oui, mais nos gamins, ils ont les téléphones. On a coupé le rapport au dehors. Effectivement, ce qu'on appelle jardin, hein, quand la Haja venait du Maroc nous voir ici, visiter, et se mettait dehors et tout, on mangeait dehors, on se posait, etc. Et tout. Je ne sais pas si à la source, pendant le Covid, ça s'est ressorti ou pas. Toi, tu m'as dit que tu avais beaucoup de chats pendant le Covid. C'est les chats qui ont pris le pouvoir dans le quartier.
Oui.
Et ça, c'est flippant quand même.
Comme dans quelque une part. Forêt. Ouais. J'ai eu peur quand même.
Ouais. Ouais. Il y a une politique, et là, je ne peux pas trop le dire parce que c'est trop personnel, mais je pense qu'il y a quelque part, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'application d'une politique qui ressemblerait un petit peu à la politique coloniale, qui font qu'en fait, on pousse les gens un petit peu à se retrancher, finalement, les uns contre les autres, et les uns...
Hein, alors,
et ça, pour le coup, c'est un, bien sûr, c'est ce que tu disais, de toute façon, c'est une manière d'isoler les gens et de les empêcher d'avancer.
Bah, je pense que c'est...
Et là, c'est, l'impact, il est psychologique aussi.
Ouais.
Alors, je suis vraiment désolée, Malik. Mais,
voulu ou pas, je ne sais pas.
Je ne suis pas très d'accord.
Oui, non, mais j'ai dit c'est très
personnel.
Oui,
voilà, je t'explique personnel. Pourquoi mes parents habitent rue Lazare Carnot. En face du lac. Et voilà. Et il y avait une fête des voisins. Et ben, tu ne me croiras pas, il y avait une grande table qui était prête. Personne n'est descendu. Et pourtant, il y a métissage énorme dans l'immeuble. Donc, tu vois comme quoi les mentalités ont changé. Donc, je ne comprends pas. Et je croisais des gens. Alors, je vous ai expliqué que tous les week-ends, je suis chez mes parents. Hein, ma maison, je ne vois pas à quoi ça me sert, mais je suis tout le temps avec mes parents à la source. Et donc, je vois des gens de mon âge, plus jeunes, plus vieux, monter, descendre, il y a 6 étages. Et je m'attendais à la fête du voisin, avec la table autour. Et moi, je dis à mes parents, alors, t'as fait quoi? Ma mère, t'as fait quoi? J'ai fait quoi? Et en fait, il n'y avait personne. Le gardien et mes parents. Donc,
c'est ça, la paix sociale, quelque part.
C'est choquant.
C'est ça qui est voulu, je pense, quelque part, qui a été acheté. Je ne vais pas aller très loin, mais ce que je ne vis pas ici, mais si je résume un petit peu ce qui a pu m'être dit, voilà, on a mis la mosquée pour les musulmans en disant aux parents, bah voilà, maintenant vos enfants, les groupes de rap, ils se calment, machin, etc. On voit bien que les groupes de rap font leur clip aussi de manière autonome. Enfin, il y a plein de groupes dans le quartier. Ça s'est un petit peu sectorisé. Alors qu'en fait, un quartier comme la Source devrait être beaucoup plus. Cette densité devrait être beaucoup plus visible, ce rapport. C'est pas normal qu'on mette des tables dehors et que ça marche pas, qu'on soit chez soi. Ça peut pas être, on peut pas dire, tiens, c'est parce que vous êtes des berbères, c'est culturel, et chez vous, vous sortez pas dans le Rif, c'est comme ça, et donc du coup, vous le reproduisez. C'est pas possible d'entendre ça, quelque part. Donc, quelque part, en fait, si, on est d'accord. Mais ce que je dis, c'est que ça s'est infusé, en fait, comme un sacheté dans l'esprit des gens. Ça s'est construit de manière indicieuse. Et il faut pas sous-estimer le rôle de l'architecture vis-à-vis de ça. C'est très, très important, et de toute façon, on a construit les banlieues en France en les ayant expérimentées d'abord en Algérie. Hein, donc c'est l'école de Le Corbusier, c'est aussi Alger, etc. Donc on a expérimenté d'abord sur les corps, en fait, hein, des colonisés, avant de le construire en France. Ce n'est pas des choses qu'on aime entendre en général en politique, encore moins aujourd'hui. Sinon, on va être traité de woke, etc. Donc, mais et c'est très dans les tendances aujourd'hui, même des recherches en sociologie. Hein, la question et coloniale et décoloniale doit être étudiée pour mieux comprendre les comportements et comment ça agit de manière indicieuse, hein, sur la psychologie des gens ou des habitants. Ce n'est pas normal que dans un quartier, ou une partie du quartier, parce qu'il y a plusieurs quartiers à la Source, il y a 4 carrés, etc. Et tout, que si demain Rogui met une table dehors avec ses voisins, est-ce que ça va marcher ou pas? Si ça marche pas, c'est pas normal.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'il faut se retrouver, il faut partir d'initiatives collectives et indépendantes. José, si tu veux dire un mot, ce serait bien.
Moi, je pense que depuis un certain temps, on est plus dans le. On n'est pas dans l'addition des gens, on est plutôt dans la division. On est souvent dans le. Ben, on va faire en sorte qu'un type de population soit contre l'autre type de population. On prend le cas de Lazare-Carnot, c'est flagrant. On a les propriétaires d'un côté et les locataires de l'autre. Et là, il y a une guerre entre les deux. Donc, il y a exactement. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a construit un petit peu le quartier depuis un certain temps. La résidentialisation, aujourd'hui, nous, on est contre parce que nous, on a vécu à l'époque... on a vécu l'ancien quartier, donc on sait ce qu'on a perdu. Mais quand vous questionnez les gens, ils sont contents de ce qu'ils ont là. Parce qu'ils n'ont pas ce comparatif que nous, on a vécu. Donc le vivre ensemble, à l'époque, il existait. Aujourd'hui, il n'existe plus parce qu'on a fait en sorte que les gens se replient entre eux.
Ouais.
Et même dans un immeuble, les gens ne se parlent pas. Ils ne se côtoient pas.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est une ville dortoir. Je rentre chez moi, je suis tranquille. Les enfants, ils n'ont plus la possibilité de pouvoir s'autogérer parce qu'il n'y a plus d'espace de vie. Aujourd'hui, c'est que des parkings et des routes. Nous, à l'époque, on sortait dehors, on avait tout l'espace qui nous était attribué sans qu'on ait de voitures qui nous traversent le... Mais on exploitait nous-mêmes nos espaces. Aujourd'hui, on ne peut pas. Yeah. Tout a été structuré de telle façon à ce qu'on contrôle. On contrôle et on sécurise.
Oui, c'est la gestion du risque.
C'est tout à fait ça.
Ce que tu disais, en fait, on a repensé la ville d'un point de vue sécuritaire. Parce que l'image que tu as utilisée tout à l'heure sur le pont qui a été détruit, tu sais quels étaient les arguments pour détruire les ponts?
Parce qu'on jetait des cailloux.
On jetait des cailloux où les délinquants, en fait, ils se sauvent, on n'arrive pas à les attraper.
Exactement.
Donc, en fait, de pont en pont, c'est un point de fuite. Donc, sécuritaire, en fait, on coupe les ponts. On résidentialise parce qu'il faut sécuriser les parkings. On diminue les espaces de parking, on diminue les espaces de vie, on diminue et on sectorise et on met les badges et plus personne, en fait, à un moment donné, tu sais qu'il y a des portes qui ont juste été cassées parce qu'en fait, c'est bête à dire, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec le fameux bip, le fameux code. Déjà, il faut penser que tout le monde sait lire et sait tapoter le code de son voisin. Donc, beaucoup d'enfants ont cassé les portes juste pour pouvoir continuer à aller voir ses voisins ou ses petits copains. Donc, cette pensée, elle a été faite pas par des gens qui ont vécu à Orléans-la-Source. Parce que jamais on l'aurait repensé comme ça. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure au début. C'est si, en fait, d'autres personnes repensent à la fois la mémoire et à la fois l'avenir, en fait, d'Orléans, eh ben, on a ce qu'on a aujourd'hui. Après, oui, ça, on ne peut pas dire que le fait d'avoir mis 1 milliard d'euros, en fait, c'est négatif sur le quartier. Il y en avait besoin. On avait un quartier qui commençait à se dégrader énormément. Et les immeubles, ils avaient plus de 50 ans et ils commençaient à être... Voilà, ils ont été payés 2-3 fois. Des parents ont payé leur appartement 2-3 fois et ils vivaient dans des conditions qui étaient juste à la limite de l'insalubre. Et ça, c'était... Et encore. Et aujourd'hui, on le revoit avec la problématique de dératisation. Quand on leur dit, ben, écoutez, moi j'ai vécu dans un quartier où la poubelle était dans mon immeuble et il y avait quelqu'un tous les jours qui venait prendre la poubelle, qui passait, avait le camion de poubelle passait tous les jours. Et on ne se souciait pas de quel jour il passait dans la semaine. Et il n'y avait pas cette problématique de rats et qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, en fait, il y en a deux par semaine. Donc il y a un jour pour les déchets verts et un jour pour les déchets. Et voilà. Et on a sorti toutes les poubelles à l'extérieur. Donc quand on leur dit, ben, ça, c'est, cette problématique vient justement quand on pense économie, restriction de budget. Peut-être qu'à la source, on n'aura pas le même budget. Peut-être que le point de vue sécurité, on va penser le point de vue de la sécurité. Ben, en fait, la partie humaine du quartier, j'allais dire, si on gère un dossier que d'un point de vue administratif et théorique et pratique, technico-pratique, on ne peut pas le gérer humainement.
Non,
et c'est là où, en fait, on a perdu quelque chose.
Notre émission touche à sa fin, je vous l'avais dit tout à l'heure. Juste pour rebondir, parce qu'il faut... Pardon, José, allez-y. Si, allez-y.
Je suis désolé d'être arrivé en retard. Mes obligations m'ont tenu éloigné un petit peu. Après, je prends juste l'émission en route. Donc, je pense que vous avez parlé surtout de le quartier tel qu'il était, tel qu'on l'a vécu, nous, à l'époque. Tout à l'heure, tu parlais, Nadia, de l'aspect politique. Moi, je pense que le politique est quand même fortement responsable de ce qui se passe au niveau du quartier. Tous les choix qui ont été faits sont des choix politiques, avant tout. Et nous, aujourd'hui, quand on regarde tous les projets qui ont été créés, que ce soit le GPV ou maintenant l'Henri II, la concertation des habitants, elle est où? Elle n'existe pas. Donc, le quartier, il a été pensé par d'autres qui n'habitent pas la source à la place des autres. Donc, nous, aujourd'hui, on subit un petit peu tout le changement de les projets qui ont été pensés par les énarques
par des cabinets d'études.
Oui, bah, les cabinets d'études, oui, si tu veux. C'est pareil.
Mais ça revient à la question du musée, c'est la même chose. En fait, on s'en foutait là, de ce projet de musée quelque part. Quoi. Et c'est vrai que y a ce truc de la source qui fait que, on est tous d'accord, c'est un projet qui a échoué, en fait, architectural, qui a échoué. Et que du coup, cet échec architectural fait qu'on subit toujours un petit peu cette conséquence de l'histoire qui fait qu'il y a ce vide et ce truc un petit peu qui manque pas grand-chose pour que ça prenne. Quoi. Et donc, mais pour revenir sur la politique, quelque part, on a l'impression qu'en fait, et c'est pour ça que pour moi, ce travail est très important, qu'en fait, c'est comme si, pour les politiques aujourd'hui, la source commençait à partir de 2002 et qu'avant, elle n'avait pas d'histoire. Et ça, exactement. Il faut absolument, absolument, absolument défendre cette idée que ce quartier, il est racinaire, il a ses racines, fait. Il a ses histoires, il a ses constructions.
D'où l'intérêt et l'importance d'une journée ça. Comme celle d'aujourd'hui.
Oui, et
qu'il faut qu'elle soit. Et il faut la répéter parce que quand on perd l'histoire, on perd un petit peu ses racines. Donc il est important de pouvoir les.
On devient fou.
Exactement. Et même pour les générations à venir, il faut qu'il y ait des moments qu'ils sachent.
Tu vois.
Exactement.
Même toi, des fois,
connaisse ton passé, exactement.
On avait commencé cette émission en poésie avec une lecture. Eh bien, on va conclure par une lecture qui nous est faite par Aude. Est-ce que tu peux nous présenter ce texte que tu vas présenter à l'écoute de nos auditeurs, auditrices?
Et oui, alors c'est un recueil de poèmes qui s'appelle « Quelques changements ». Et en fait, l'auteur, c'est mon frère, qui est né à la source, qui est Roman V. Sanchez, qui a écrit une quinzaine de romans, de recueils de poésie qui ont été publiés. Et lui, en fait, quand on parle de traces écrites ou de mémoires ou de souvenirs, mon frère se nourrit énormément, énormément de la source. Il a une grosse nostalgie, il aime ce quartier. Et donc, dans ses livres, il instille des lieux de la source, il les magnifie, il les repense, il les... Voilà. Donc là, c'est un poème. Je pense qu'il a... Il a eu un souvenir de quand on avait vidé le lac de Loret-Sologne. C'était assez fou pour des enfants de voir un lac se vider avec tous les poissons, puis tout ce qu'il y a dedans aussi, parce qu'il y a de la mémoire hein, dans les lacs. Les vélos, les skates, enfin tout, quoi. C'est comme un monde, c'est comme la nécropole là, qui se... Ouf, qui revient, voilà.